À voix nue. Cette semaine, Émilie Chaudet rencontre Bruno Dumont. Ce soir, les paysages de l'enfance.
Bonsoir Bruno Dumont.
Bonsoir.
Au commencement, il y a le paysage, celui qui doit être filmé tant qu'il n'a pas disparu, un paysage qui nous donne la solution, une porte de sortie en nous faisant entrer dans les corps. Parce qu'ensuite, en effet, il y a les corps, ceux qui ne parlent pas encore, ceux qui tombent, ceux qui fuient, les visages silencieux et hurlants, face contre terre, aussi pour ressentir et retrouver la vie. Des visages inconnus et qui n'appartiennent qu'à un seul cinéma, parfois à un seul film, en tout cas à une seule terre, celle du Nord, des Flandres, la Côte d'Opale et bien sûr votre ville natale, Bailleul, et ses alentours. Ces visages, ce sont ceux de Freddy, de Pharaon de Winter, de Démester, du Gat, de Céline, de Petit Quinquin, pour ne citer que ceux-là. Des visages dont vous avez dit, Bruno Dumont, qu'ils vous ressemblent, qu'ils disent quelque chose de votre sensibilité, de votre intériorité. Alors tout au long de cette semaine d'entretien, nous partirons souvent de ces personnages pour arriver jusqu'à vous. Et pour parler d'eux, il faut parler de ces paysages dans lesquels ils s'inscrivent. Alors, une première question. Au moment de la sortie de l'Humanité, en 1999, vous avez dit lors d'une interview à Bailleul, justement, qu'enfant, vous étiez passé à côté du paysage, qu'ils étaient restés endormis en vous et qu'ils avaient fini par ressortir. Comment est-ce qu'ils se sont éveillés, ces paysages ?
Ah bah c'est vraiment les paysages de mon enfance. J'ai vadrouillé, j'ai marché, j'ai fait beaucoup de mobilettes. Donc je les ai vraiment... pénétrer de toutes parts, sans forcément en prendre pleinement conscience d'ailleurs, parce que je pense qu'un enfant, il est un petit peu... Il vit les choses sans forcément les approfondir totalement, et je me rends compte souvent à quel point ces paysages sont importants, en fait. Ils sont importants parce qu'ils ils figurent des tas de choses qui sont enfouies, qui ne sont pas forcément faciles... à dire ou associer, ça dit beaucoup de l'intériorité. Voilà, ça dit beaucoup de. C'est vraiment une représentation de la vie à la fois intellectuelle, sentimentale, sensible. C'est-à-dire quand on essaie d'exprimer, mais même des sentiments, hein, finalement, je pense que le recours au paysage, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, je dis souvent que les êtres humains sont des terminaisons comme des branches. Donc je pense qu'on est des terminaisons de paysage aussi.
D'ailleurs, vous avez dit dans une interview il y a quelques années que si votre acteur ou votre actrice préférée, c'était un cours d'eau, et que s'il fallait vous incarner au cinéma, ce serait sans doute un cours d'eau.
Je trouve qu'un cours d'eau, ça me renverse, moi.
Pourquoi ça vous représenterait mieux ?
Ça me renverse surtout quand c'est cadré, quoi. C'est pas, sinon je me promène normalement, hein, mais je me rends compte que le cadre, c'est une façon d'empoigner les choses. C'est étonnant, un cadre, parce qu'un cadre, c'est une espèce d'abstraction, en abstrait. En fait, on abstrait le réel, des petits morceaux, et au cinéma, on les recompose ensemble. Et je me rends compte à quel point le montage, c'est-à-dire en associant des plans, avec un petit ruisseau, le petit cours d'eau, le petit taillis à côté, un personnage qui le traverse, rien que ça a une puissance de feu incroyable. Et je me rends compte une fois projeté, hein. Ça dit autre chose que ce qui est là. Ça me fascine beaucoup. C'est-à-dire, on va toujours au-delà de ce qu'on filme.
Est-ce que vous vous souvenez de la manière dont vous les regardiez, ces paysages, quand vous étiez enfant ? Cette rue des Foulons,
oui,
par exemple.
Parce que je passais beaucoup de temps... mon père était médecin, et de temps en temps, je l'accompagnais. Et j'attendais dans la voiture, je ne pouvais pas rentrer, donc il était médecin, donc je restais dehors. Et j'ai passé beaucoup de temps dans les cours de ferme. Donc j'étais dans la voiture... Shorté de temps en temps, et je pouvais passer une demi-heure quand même à rien faire, quoi. Et je pense que ça m'a beaucoup imprégné. C'est-à-dire justement, parce que dans une cour de ferme, il y a les odeurs quand même, il y a le bruit, il y a l'ouvrier agricole qui est là, les enfants qui sont là, les animaux. Donc tout ça, j'ai quand même pris un temps fou à regarder, quoi. Je pense que mon enfance a été un grand buvard, et j'ai beaucoup vu, beaucoup regardé, mais sans me rendre compte. C'est-à-dire que, là j'en parle maintenant, mais j'étais un gamin tout à fait ordinaire. J'étais dans la voiture et je regardais à travers la vitre.
Vous aimiez ce que vous regardez ou vous rêviez d'un ailleurs, enfant ?
Non, j'étais pas, ça me plaisait. J'aimais bien les gens. J'aimais bien, ça me plaisait, j'aimais bien les fermes, j'aimais bien l'odeur, j'aimais bien accompagner mon père. Ça me plaisait. Même j'allais aussi bien à l'hospice qu'à l'hôpital. J'étais toujours dehors parce que je ne pouvais pas rentrer. Donc. Et après, en étant plus adolescent, j'ai continué à voir les gens, à aller à l'hospice. Et je me liais avec les vieux.
À quelle occasion? À quelles occasions?
C'est comme ça, parce que à Bailleul, les gens sont une petite ville. Hein. Donc on se côtoie tous, il n'y a pas de milieu, en fait. Moi, j'allais à l'école avec les gars avec qui je tourne, il y avait une espèce de mélange, comme ça, il n'y avait pas de classe sociale, ça n'existait pas du tout. On se côtoyait, on se voyait, on était ensemble, on se regardait. Et moi, je pensais qu'il fallait partir de tout ça, vu que j'avais fait des études ensuite de philosophie. Je pensais que j'allais devoir filmer ailleurs, c'est-à-dire que... Tout d'un coup, je dis, bah non, c'est là que je vais filmer. Tout ça, c'est formidable. Toi. Mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite.
Quand vous parlez de votre enfance, tout à l'heure, là, vous venez d'évoquer la mobilette. On pense à Freddy dans La Vie de Jésus. On pense,
et comment ?
On pense aussi au vélo de Petit Quinquin et à sa manière dont Freddy, tout comme Petit Quinquin, balance leur mobilette et leur vélo contre le mur. Voilà, Petit Quinquin, c'est quand même le personnage le plus enfantin de votre filmographie. Mmh. Donc on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un peu de vous enfant dans ce petit garçon. Qu'est-ce qu'il porte de votre
enfance? Non, mais je suis dans tous les personnages. Faut tout ramasser, il ne faut pas en prendre un. Je pense que ce serait une erreur. Moi, je me sens très proche du commandant, de Carpentier, tout ça. Non, je suis autant le ruisseau que les arbres, que tout ça. J'ai vraiment une espèce de...
Et Freddy aussi?
Ah bah surtout.
Pourquoi surtout?
Parce que c'est le premier. Et non, c'est surtout parce que c'est... Je suis tout, c'est-à-dire je suis le bien, le mal, je suis tout. J'ai pleinement conscience de la dimension comique et tragique de ce que je suis. Donc je ne peux pas en choisir un. Freddy, c'est l'un des plus beaux personnages que j'ai écrits, de mon point de vue. Je le trouve extraordinaire.
Freddy, je le rappelle à nos auditeurs, c'est donc le personnage principal de La Vie de Jésus, qui sillonne lui aussi donc Bailleul et ses alentours en mobylette, qui a une petite amie qui s'appelle Marie, qui a sa bande de copains et qui en fait cherche du travail et passe ses journées à errer jusqu'à ce qu'il rencontre, Kader, donc qui convoite sa petite amie, et on n'en dit pas plus à ceux qui ne l'ont pas vu. Vous parliez de votre milieu tout à l'heure, Bruno Dumont, en disant qu'il n'y avait pas de milieu. Votre père était médecin obstétricien, votre mère mère au foyer, et vous disiez quand même que vous avez une fascination pour les gens marginaux qui n'ont rien et qui doivent tout construire, et que vous vous sentiez enfant au milieu de rien, vous ne ressentiez rien.
Oui, parce que j'avais la chance d'être bien tombé, quoi. C'est-à-dire que j'avais... Et puis, en même temps, je suis bien tombé. C'est-à-dire que j'étais ni d'une famille bourgeoise, ni d'une famille pauvre. C'est-à-dire que j'étais... mes parents, c'était des gens, somme toute, assez ordinaires, quoi. Donc, qui font pas partie des grandes familles. Dans le Nord, il y a les grandes familles. Il y a même un livre avec les grandes familles. Bon, on n'est pas dedans, si vous voulez. Et c'est bien, je suis bien content de ne pas être dedans, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis dans une famille, j'ai envie de dire, intermédiaire. Et c'est en fréquentant les autres que je me suis rendu compte d'où je venais. Si on ne se rend pas compte de son milieu. Son milieu, il est naturel. Donc, je me suis rendu compte de mon milieu peut-être en allant un peu ailleurs. Donc, j'ai vu aussi que c'était un milieu aussi qui était un peu conventionnel, un peu fermé, qui avait des jugements de valeur, qui avait quand même des petites choses un petit peu coincées.
Dans quelle famille vous avez grandi, justement, en termes de jugement de valeur et de valeur?
Oh bah c'est quand même des gens qui ont une éducation catholique, chrétienne, mais sans plus d'ailleurs, ni plus ni moins. Donc ils m'ont quand même mis dedans, donc j'ai quand même dû m'en sortir. Donc j'ai dû faire un effort pour sortir de là, mais il faut bien sortir de quelque chose. Donc si ça n'avait pas été le cas, j'aurais fait autre chose. Donc je n'ai pas de jugement sur ça. Je ne dis pas ni que c'est formidable, ni que c'est pas bien. C'est-à-dire qu'il faut... Il faut donner un élan à ses enfants, et on est quelque part, et j'ai envie de dire pourquoi pas.
Vous avez étudié chez les frères salésiens, avec vos frères.
Oui. Mmh.
Donc ça dit quelque chose de la place de la religion dans votre famille. Comment vous, vous le viviez enfant? Je sais que adolescent, vous avez fini par rejeter tout ça.
Oui, j'ai rejeté tout ça, mais sinon, bah, y avait des curés partout. Moi, ça me paraissait normal. Donc, j'avais pas... Les Salésiens, ils étaient... Il n'y avait pas de rigueur particulière. Donc, moi, j'étais plutôt un enfant un peu turbulent, pas tellement travailleur. Donc, j'étais déjà... je ne vais pas dire marginal, parce que c'est exagéré, mais j'avais un sens de la critique, du... Donc, j'étais pas dans le rang, quoi. Donc j'ai jamais été...
On vous punissait souvent ?
Ah oui, je travaillais pas très bien, j'étais pas forcément bien discipliné, mais j'étais pas non plus quelqu'un de si turbulent que ça, mais... Et je me souviens... Voilà, donc j'ai eu cette... Je m'en suis séparé... Parce que je voyais quand même que c'était pas juste. Il y avait quelque chose qui me paraissait de ridicule dans le théâtre de la messe, par exemple. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, lui ? Il y avait quelque chose d'archaïque qui me paraissait totalement... archaïque, voilà, qu'est-ce que c'est que cette espèce de vestige des temps anciens ? Quelque chose du passé, quelque chose de d'inhumain même. Mais voilà, de...
D'inhumain.
Oui, d'inhumain. De sectaire, de une espèce d'idéologie un peu curieuse, une espèce de violence spirituelle comme ça qui était là, qui m'a paru très vite suspecte. Et c'est en étudiant les histoires des religions que j'ai compris, en fin de compte, l'invention de l'institution. Donc autant je me suis débarrassé de l'institution, mais je ne me suis pas débarrassé de son contenu que je trouve sacré. Donc quelque chose de vrai là-dedans quand même. Hein. Donc c'est pas...
Mais c'est ce qu'on retrouve dans votre cinéma.
Tout à fait. Donc il fallait que je récupère le sacré. C'est pour ça que je me sens une mission de retrouver le sacré dans le cinéma pour le remettre à sa place, c'est-à-dire dans le profane. Hein. C'est pas non plus... Je n'ai pas fondé une église, hein. Au contraire. Il y a quelque chose de... d'assez laïque, même d'assez profane, mais qui est la vie. Et le sacré, bah, c'est tomber amoureux. Il y a plein d'endroits où on est sacré. Le sacré, il fuse partout, au cinéma particulièrement. Le cinéma est un lieu tout à fait propice à la faire apparaître le sacré.
Quand je vous posais la question tout à l'heure de cette rupture avec la religion, donc c'était vers 14-15 ans, c'est ça ?
Ou plus tard, je pense, oui, 18 ans, oui, c'était en philo, en terminale, tout ça, où ça commençait, où j'ai commencé à étudier Nietzsche, tout ça, des penseurs qui m'ont construit, qui m'ont donné la possibilité critique de me sortir de la religion. Parce qu'en même temps, pour s'en sortir, quand vous êtes dedans, c'est pas simple. Donc, pour s'en sortir, il faut avoir l'équipement. Donc, l'équipement, je l'ai trouvé par Schopenhauer, par Nietzsche, donc par des penseurs qui ont critiqué la religion. Et donc là, donc j'ai fait, ça m'a permis aussi de prendre du recul. Mais ce qui est bien, c'est que je suis resté critique sans devenir un athée convaincu, puisque je retourne au religieux, moi, mais je fais un religieux qui est humanisé, je pense.
Et cette rupture-là, vous la partagez avec des gens de votre famille ou vous étiez vraiment le seul de vos frères, de vos parents à avoir ce doute-là ?
Ah oui. Mon père était un croyant assez constitué, assez intellectuel, assez construit. Mais ma rupture intellectuelle, elle était... faut tuer son père, quoi. C'est bien, quoi. Cette rupture, elle me paraît... Et j'ai toujours respecté mon père, etc. Donc, mais on avait une distance intellectuelle très forte sur ça. Donc on s'en sentait très bien. Mais j'ai aussi appris à respecter l'autre. Voilà, bon, je pense pas comme lui, il pense comme ça, très bien. Je pense qu'il a tort. Je pense qu'il devait penser la même chose. Quand il a vu la vie de Jésus, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Toutes ces mobilettes, ça fait tellement de bruit. Enfin, il m'a parlé que de ça, que du bruit, quoi. Bon. Mais... moi, j'étais très critique par rapport, justement, on l'avait cité, à un moment donné, j'étais très critique par rapport à mon milieu, je le suis moins. J'admire pas non plus la classe ouvrière, enfin, ça va, quoi. Donc, je veux dire, donc, je suis pas béat non plus, je pense qu'il y a, on peut pas faire des jugements de classe. Moi, je juge les individus. Ça, oui. mais les classes, non, il n'y a pas, parce que c'est pas parce que t'es né pauvre que t'es un bon gars, et c'est pas parce que t'es né riche que t'es un sale type. Je pense pas du tout à ça, au contraire.
Votre père, il a fini par comprendre, aimer votre cinéma, ce que vous vouliez dire dans vos films?
Oui, je pense qu'il a fini parce qu'il avait une culture. Tous les livres que j'ai lus, par exemple Mirza Elia, tout ça, c'est lui qui les avait. Il avait quand même dans sa bibliothèque, je lui ai pris beaucoup de livres. Il avait quand même c'est un homme assez étonnant, je trouve, parce que autant il était un peu étroit dans son éducation, et ça vient peut-être de son éducation, autant il avait une grande culture, très très large, etc. Donc je pense qu'il a été touché par l'humanité, par exemple. Ça, parce qu'il y avait, une dimension humaine qui était beaucoup plus visible. Je pense que la vie de Jésus, il n'a pas compris, quoi. Voilà. Alors que l'humanité, c'est peut-être plus simple. Plus facile, oui.
Et votre mère, vos frères, qu'est-ce qu'ils pensaient de votre cinéma?
Mais je suis ma mère, elle est sur la terre et mon père était au ciel, en gros. C'est-à-dire que lui, il était plutôt perché. Donc il lisait des choses. Alors que ma mère, elle est sur le plancher des vaches, elle parle avec ses voisines, donc elle a le sens du. Voilà. Je suis un peu les deux, en fait. C'est-à-dire, je filme le réel. Donc ma mère aime beaucoup mes personnages. Donc les personnages de la vie de Jésus, tout ça, elle les voit quand elle sort, elle les voit, elle les connaît. Donc elle est touchée par ça. Tandis que mon père, lui, il voit plutôt ce que la signification de tout ça. Et peut-être ce que j'ai réussi à faire, c'est les deux. C'est-à-dire je filme sur Terre les pâquerettes, mais ce sont des pâquerettes qui sont tournées vers le ciel, qui ne parlent que du ciel. Moi, je ne parle que du ciel, mais je ne le filme jamais. Jamais, jamais. Je m'interdis de filmer le ciel, je m'interdis d'être intellectuel, de dire des choses, je m'interdis ça.
On peut filmer le ciel sans être intellectuel?
Oui, peut-être, vous avez raison, mais il faut le filmer d'une certaine façon.
Bruno Dumont, comment le cinéma est entré dans votre vie?
Bah, il est rentré dans ma vie de petit spectateur, je pense, ça m'a fasciné. J'étais fasciné par le cinéma, donc j'allais au cinéma à Bayeux, j'ai vu des films. Et j'étais vraiment très, très impressionné par le spectacle. Et j'ai très vite dit, moi je veux faire ça, quoi. Ça c'est super, ça, moi je veux faire ça. Donc j'ai très vite dit, je veux être réalisateur de cinéma.
Vous vous souvenez à quel âge vous êtes formulé ce vœu?
Je ne sais pas, 10 ans, 12 ans.
Et vous partagez?
Et mes parents m'ont toujours dit, oui c'est ça, bah, écoute, fais autre chose d'abord et on verra ensuite, quoi.
Qu'est-ce qu'ils projetaient sur vous, vos parents?
Qu'est-ce qu'ils projetaient? Mais je pense avoir eu des parents qui ne projetaient rien, justement, qui ont eu assez d'intelligence pour pas projeter. Non, ils faisaient attention aux études. Le milieu artistique, c'est pas du tout leur milieu. Donc ça, pour eux, ça leur passait assez extravagant de faire ça. Donc je pense qu'ils veillaient plutôt pour que je rentre dans le rang et de faire des études quasiment normales. Mais comme je travaillais pas forcément très bien, c'était pas facile. Non, non, ils m'ont laissé faire, c'est-à-dire j'ai dit que j'allais tenter le concours de l'école de cinéma, ils m'ont laissé faire, ils m'ont jamais... Non, ils n'ont pas. Après, j'ai pas réussi, donc c'est un autre problème. Mais...
C'est une passion, le cinéma, que vous pouviez partager avec eux ou avec
non.
Vos trois frères? Ou c'était très solitaire?
Oui, c'est pas... Non, non, c'est pas... Peut-être que mon père était plutôt... Moi, je me souviens d'avoir vu un film de Bresson avec mon père. Oui. Mais mes parents n'étaient pas du tout versés dans un cinéma. Moi, j'allais voir avec eux, je sais pas, Gérard Horry, vraiment le film populaire, quoi. C'était pas du tout... Mes parents m'ont pas du tout conduit vers une forme de... Alors que mon père était plutôt un lecteur... C'était plutôt un intellectuel... Mais ils n'ont pas tellement partagé leur culture, c'est-à-dire qu'on nous a laissé tranquilles, quoi.
C'était quelque chose que vous nourrissiez seul?
Bah, ce goût-là, oui, c'est quelque chose que j'avais seul, oui.
Il y a quelques années, dans une interview que vous avez donnée à Télérama, vous parliez de vos jeux d'enfants, de la mobylette. Vous disiez que vous défonciez la campagne, que vous vous héroïsiez avec vos amis. Et vous parlez aussi d'une cave harnachée de cordes et de gants, et dans laquelle vous passiez du temps en disant « Sinon, comment le cinéma aurait-il pu m'éblouir ?» Qu'est-ce que vous imaginiez dans cet espace de jeu particulier ? Souterrain, Bruno Dumont.
Bah, je me souviens qu'il y avait une cave que j'explorais avec des cordes, en m'habillant comme un explorateur, alors que c'était une cave, hein, donc c'était trois pièces en fait. Donc je me présentais dans l'escalier, j'éteignais la lumière et je rentrais dedans. Et donc j'ai toujours été un peu comme ça, c'est-à-dire explorer.
Tout seul.
Oui, alors à m'imaginer des aventures extraordinaires, alors que c'était vraiment d'une banalité folle. Et j'avais vraiment le goût de ça, c'est-à-dire le goût de... Je devais avoir un imaginaire assez puissant, j'imagine, pour y trouver du plaisir, mais ça m'a toujours plu de m'aventurer.
Vous vous en souvenez peut-être plus que de votre chambre ou des terrains de jeu que vous partagez avec vos amis ?
Je me souviens surtout de ma mobylette, c'est ça qui me frappe le plus. J'ai passé vraiment, c'était vraiment une ma mobylette, quand j'ai une mobylette, c'était la liberté, quoi. Je pouvais me déplacer, aller partout. Je connaissais toutes les routes de Flandre par cœur, quoi. Et aujourd'hui, je suis un très bon repéreur, c'est-à-dire je connais bien. C'est-à-dire j'ai passé du temps à aller dans un sens, à revenir dans l'autre. Et puis la mobylette, c'est fascinant parce que ça fait beaucoup de bruit, en fait. Et quand vous éteignez le moteur, vous avez une sensation de silence extraordinaire. Et cette rupture des sons, des bruits, par exemple, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, en fait, au cinéma. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le son ambiant. Mais le son ambiant, il faut des ruptures, il faut des... Même dans mes films, il y a beaucoup de moteurs, en fait. Moteurs agricoles, etc. Donc j'aime beaucoup la vivacité des sons agricoles. Des alouettes aussi, par exemple, des oiseaux. Parce que c'est des choses que j'ai vraiment dans mes oreilles, quoi.
Un paysage sonore.
Oui, à s'arrêter sur un petit chemin, au milieu d'un champ, dans un fossé. Et ça gazouille, et il y a plein de... Ouais, c'est très riche, hein. Toutes ces couleurs-là, elles sont... Je sens bien qu'elles sont vraiment... Qu'elles sont vraiment moi, quoi.
Dans vos souvenirs de cinéma enfant puis adolescent, est-ce qu'il y a des paysages justement qui vous ont marqué plus que des personnages ?
Oui, il y a des paysages. Ben, le cinéma, c'est surtout des paysages. Donc il y a tout le cinéma italien, je vais vous dire. C'est vraiment j'ai des souvenirs de films en noir et blanc.
Moi, lesquels, par exemple ?
Pasolini. Mais moi, tous ces films-là, je les ai vus à la télévision. Parce que, on voyait, le cinéma, il était très présent à la télévision. Donc moi, j'ai une culture... Voilà, c'est le cinéma de minuit, hein, donc c'est vraiment... J'ai vu beaucoup de films à la télévision, en fait. Mais dans mon enfance, j'ai vu passer des films, mais accidentellement, quoi, qui passaient, et donc je les regardais, mais j'ai pas de grands souvenirs, je peux pas dire, ah tiens, moi j'ai vu Bergman quand j'avais 5 ans, c'est pas vrai, quoi. C'est la philosophie qui m'a éveillé, moi, sinon j'étais vraiment un garçon tout à fait banal, quoi.
Il y avait quand même le cinéma, petit garçon, et quoi d'autre dans votre vie, à cette époque-là, Bruno Dumont ?
Il y avait l'amour, il y avait les filles. Je pense que c'est ce qui m'intéressait le plus, si vous voulez. J'ai démonté une mobylette entière pour rester devant chez une fille, quoi. Je me souviens, c'est pour ça que vous dites que ma mobylette m'a beaucoup été utile. Je pense que ce qui m'intéressait le plus, c'était ça. J'étais très amoureux, vraiment, je tombais amoureux très souvent, et... J'étais plutôt timide, donc en fait, je faisais pas grand-chose, mais donc j'étais capable de m'inventer des histoires pas possibles. Et tomber amoureux, c'est extraordinaire, ça, c'est un truc formidable. Et donc, je pense que ça m'a pas mal occupé, quand même. Donc, j'avais pas le temps de lire. Je me déchirais, quoi. J'étais mais vraiment d'amour, mais pour rien, quoi. C'est-à-dire qu'il se passait rien, en fait. Mais voilà, et la mobylette, voilà, j'avais une bonne raison d'être devant chez elle. Donc j'ai démonté ma mobylette, puis je l'ai remontée. Mais ça fait partie des meilleurs moments de ma vie. Hein. Mais il ne s'est rien passé.
Cette attente-là ?
Ben, l'attente, oui, c'est formidable. Surtout d'inventer cette histoire-là pour attendre. Et le soir, je rentrais, ça nourrissait mon sommeil pour y retourner le lendemain. Non, mais c'est vraiment des moments formidables. Quand je me repenche sur ça, je ris. Mais ça ne retire en rien la puissance d'amour que j'avais, je sais pas, j'avais 14 ans, quoi. Et j'étais terriblement amoureux d'elle.
Qu'est-ce que vous partagiez avec vos frères ?
On était très... on parle pas grand-chose, on était très différents.
Vous êtes le troisième d'une fratrie de quatre ?
On s'entendait bien, quoi, mais sans partager, c'est un mot qui est trop fort, on partage pas, c'est comme... C'est très intellectuel de dire ça, mais quand on vit, quoi. On se pose pas de questions. Non, je partageais rien, je voyais rien, je lisais pas grand-chose. J'ai toute espèce de bouillasse. Mon enfance est une jolie bouillasse, mais belle, hein, c'est très beau. Donc, avec une espèce de matériau comme ça, mais sur lequel je ne me penche pas dessus, quoi. Donc, Je vois toujours mes frères, je vois toujours ma mère. Bailleul, j'y vais plus beaucoup, moins, mais...
Pourquoi ?
Comme ça, quoi, c'est... Bon, les tournages que j'ai faits à Bailleul ne sont pas forcément bien passés.
Parce que
les gens là-bas, ils râlaient, tout ça. Ouais, c'est compliqué, les tournages, on emmerde pas mal les gens, quand même. On bloque les rues, tout ça, donc c'est pas...
Au point de ne plus vouloir y revenir ?
Oui, moi j'étais la vie de Jésus et l'humanité, le maire était assez accueillant, le suivant pas tellement, donc je retourne pas quoi.
Dans l'humanité justement, le CRS Jean-Luc Dumont, c'est un de vos frères ?
Jean-Luc Dumont.
Qui joue le CRS ?
Quel CRS ?
Le CRS qui repousse les grévistes.
Il s'appelle Jean-Luc Dumont ?
Oui.
Bah oui, je m'en souviens. Non, mais c'est un hasard.
D'accord. Ouais. Je me demandais justement dans quelle mesure votre famille avait pris part à votre cinéma.
Ah non, mais ma famille, elle est pas, elle prend pas part. Ah non, c'est pareil. C'est très cloisonné, tout ça. Il n'y a pas de... C'est tellement différent. Le cinéma, il transgresse. C'est un lieu de transgression. La famille, c'est du sang. On a des rapports de sang. Très compliqué, hein, le sang. C'est quand même un métier qui vous coupe des autres, c'est-à-dire que vous rentrez tellement dans le cuir des choses que les gens vous prennent pour un fou, quoi. C'est-à-dire vous êtes curieux, quoi. C'est-à-dire on est quand même des explorateurs. Je reviens à ma cave. C'est-à-dire qu'on descend vraiment dans. Donc les gens ils vous prennent pour quelqu'un d'un peu curieux, quoi.
Est-ce que les rares fois où vous revenez à Bailleul, vous voyez le Bailleul de votre enfance ou le Bailleul de vos premiers films ?
Ah oui, c'est la Madeleine de Proust. Ça sent bon la Madeleine, quoi. Ça vous remonte. Ah oui, ça n'est que ça. Le Bailleul, c'est...
C'est pas la vie de Jésus, c'est pas l'humanité.
Ah si, c'est ça. C'est justement, le présent de Bailleul, je le vois pas. Je ne le vois pas, je ne revois simplement que des souvenirs... des odeurs. Je repasse souvent même sur des endroits où j'ai tourné, mais là, les endroits ont changé, donc ça a disparu. Donc là-bas, par contre, c'est assez nostalgique, oui.
C'est-à-dire ?
Bah justement, c'est le pays dans lequel j'ai commencé à faire du cinéma, donc c'est un pays qui a changé, donc c'est plus les mêmes. Mais donc je vois que ça a changé. Donc... Le petit casino de la vie de Jésus, tout ça, bah, c'est plus le petit casino, c'est un truc qui voilà, c'est plus pareil, donc ça a bougé. La nature est vraie, je pense qu'il y a une nature qui est là, qui n'a pas bougé, elle, mais il faut que je sorte de Bailleul, il faut que j'aille dans la campagne, où je retrouve la même chose, là c'est vraiment pareil.
Merci Bruno Dumont.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Émilie Chaudet avec Bruno Dumont. À voix nue, réalisation Véronique Lamandour, prise de son Yves Lehorse, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.